La faute de l'abbé Mouret. Chapitre 4. Quand l'abbé Mouret ne sentit plus la Teuse derrière lui, il s'arrêta, heureux d'être enfin seul. L'église était bâtie sur un tertre peu élevé qui descendait en pente douce jusqu'au village. Elle s'allongeait, pareille à une bergerie abandonnée, percée de larges fenêtres, égayée par des tuiles rouges. Le prêtre se retourna, jetant un coup d'œil sur le presbytère, une masure grisâtre collée au flanc même de la nef. Puis, comme s'il eût craint d'être repris par l'intarissable bavardage bourdonnant à ses oreilles depuis le matin, il remonta à droite. Il ne se crut en sûreté que devant le grand portail où l'on ne pouvait l'apercevoir de la cure. La façade de l'église, toute nue, rongée par les soleils et les pluies, était surmontée d'une étroite cage en maçonnerie, au milieu de laquelle une petite cloche mettait son profil noir. On voyait le bout de la corde entrer dans les tuiles. 6 marches rompues à demi enterrées par un bout menaient à la haute porte ronde, crevassée, mangée de poussière, de rouille, de toile d'araignée, si lamentable sur ses gonds arrachés que les coups de vent semblaient devoir entrer au premier souffle. L'abbé Mouret, qui avait des tendresses pour cette ruine, alla s'adosser contre un des vantaux sur le perron. De là, il embrassait d'un coup d'œil tout le pays. Les mains aux yeux, il regarda, il chercha à l'horizon. En mai, une végétation formidable crevait ce sol de cailloux. Des lavandes colossales, des buissons de genévriers, des nappes d'herbes rudes montées sur le perron, plantaient des bouquets de verdure sombre jusque sur les tuiles. La première poussée de la sève menaçait d'emporter l'église dans le dur taillis des plantes noueuses. À cette heure matinale, en plein travail de croissance, c'était un bourdonnement de chaleur, un long effort silencieux soulevant les roches d'un frisson. Mais l'abbé ne sentait pas l'ardeur de ses couches laborieuses. Il crut que la marche basculait et s'adossa contre l'autre battant de la porte. Le pays s'étendait à 2 lieues, fermé par un mur de collines jaunes que des bois de pin tachés de noir. Pays terrible aux landes séchées, aux arêtes rocheuses déchirant le sol. Les quelques coins de terre labourables étalaient des mares saignantes, des champs rouges où s'alignaient des fils d'amandiers maigres, des têtes grises d'oliviers, des traînées de vignes, rayant la campagne de leurs souches brunes. On aurait dit qu'un immense incendie avait passé là, semant sur les hauteurs les cendres des forêts, brûlant les prairies, laissant son éclat et sa chaleur de fournaise dans les creux. À peine, de loin en loin, le vert pâle d'un carré de blé montait-il une note tendre. L'horizon restait farouche, sans un filet d'eau, mourant de soif, s'envolant par grande poussière au moindre haleine. Et tout au bout, par un coin écroulé des collines de l'horizon, on apercevait un lointain de verdure humide, une échappée de la vallée voisine, que fécondait la Viorne, une rivière descendue des gorges de la Seille. Le prêtre, les yeux éblouis, abaissa les regards sur le village dont les quelques maisons s'en allaient à la débandade au bas de l'église. Misérable maison faite de pierres sèches et de planches maçonnées, jetées le long d'un étroit chemin, sans rue indiquée. Elles étaient au nombre d'une trentaine, les unes tassées dans le fumier, noires de misère, les autres plus vastes, plus gaies, avec leurs tuiles roses. Les bouts de jardin conquis sur le roc étalaient des carreaux de légumes coupés de haies vives. À cette heure, les arteaux étaient vides. Pas une femme aux fenêtres, pas un enfant vautré dans la poussière. Seules des bandes de poules allaient et venaient, fouillant la paille, quêtant jusqu'au seuil des maisons dont les portes laissées ouvertes bâillaient complaisamment au soleil. Un grand chien noir assis sur son derrière à l'entrée du village semblait le garder. Une paresse engourdissait peu à peu l'abbé Mouret. Le soleil montant le baignait d'une telle tiédeur qu'il se laissait aller contre la porte de l'église, envahi par une paix heureuse. Il songeait à ce village des arteaux, poussé là, dans les pierres, ainsi qu'une des végétations noueuses de la vallée. Tous les habitants étaient parents, tous portaient le même nom, si bien qu'ils prenaient des surnoms dès le berceau pour se distinguer entre eux. Un ancêtre, un arteau était venu, qui s'était fixé dans cette lande comme un paria. Puis sa famille avait grandi avec la vitalité farouche des herbes suçant la vie des rochers. Sa famille avait fini par être une tribu, une commune dont les cousinages se perdaient, remontaient à des siècles. Ils se mariaient entre eux dans une promiscuité éhontée. On ne citait pas un exemple d'un artaud ayant amené une femme d'un village voisin. Les filles seules s'en allaient parfois. Ils naissaient, ils mouraient, attachés à ce coin de terre, pullulant sur leur fumier, lentement, avec une simplicité d'arbres qui repoussaient de leurs semences, sans avoir une idée nette du vaste monde au-delà de ces rochers jaunes entre lesquels ils végétaient. Et pourtant, déjà parmi eux, se trouvaient des pauvres et des riches. Des poules ayant disparu, les poulaillers, la nuit, étaient fermés par de gros cadenas. Un artaud avait tué un artaud un soir derrière le moulin. C'était au fond de cette ceinture désolée de collines, un peuple à part, une race née du sol, une humanité de 300 têtes qui recommençait le temps. Lui gardait toute l'ombre morte du séminaire. Pendant des années, il n'avait pas connu le soleil. Il l'ignorait même encore, les yeux fermés, fixés sur l'âme, n'ayant que du mépris pour la nature damnée. Longtemps, aux heures de recueillement, lorsque la méditation le prosternait, il avait rêvé un désert d'ermite, quelques trous dans une montagne où rien de la vie, ni être, ni plante, ni eau ne le viendrait distraire de la contemplation de Dieu. C'était un élan d'amour pur, une horreur de la sensation physique. Là, mourant à lui-même, le dos tourné à la lumière, il aurait attendu de n'être plus, de se perdre dans la souveraine blancheur des âmes. Le ciel lui apparaissait tout blanc, d'un blanc de lumière, comme s'il neigeait des lys, comme si toutes les puretés, toutes les innocences, toutes les chastetés flambaient. Mais son confesseur le grondait quand il lui racontait ses désirs de solitude, ses besoins de candeur divine. Il le rappelait aux luttes de l'Église, aux nécessités du sacerdoce. Plus tard, après son ordination, le jeune prêtre était venu aux Artaud sur sa propre demande, avec l'espoir de réaliser son rêve d'anéantissement humain. Au milieu de cette misère, sur ce sol stérile, il pourrait se boucher les oreilles au bruit du monde. Il vivrait dans le sommeil des saints. Et depuis plusieurs mois, en effet, il demeurait souriant. À peine un frisson du village le troublait-il de loin en loin. À peine une morsure plus chaude du soleil le prenait-elle à la nuque, lorsqu'il suivait les sentiers tout au ciel, sans entendre l'enfantement continu au milieu duquel il marchait. Le grand chien noir qui gardait les Artaud venait de se décider à monter auprès de l'abbé Mouret. Il s'était assis de nouveau sur son derrière à ses pieds. Mais le prêtre restait perdu dans la douceur du matin. La veille, il avait commencé les exercices du rosaire de Marie. Il attribuait la grande joie qui descendait en lui à l'intercession de la Vierge auprès de son divin Fils. Et que les biens de la terre lui semblaient méprisables. Avec quelle reconnaissance il se sentait pauvre. En entrant dans les ordres, ayant perdu son père et sa mère le même jour à la suite d'un drame dont il ignorait encore les épouvantes, il avait laissé à un frère aîné toute la fortune. Il ne tenait plus au monde que par sa sœur. Il s'était chargé d'elle, pris d'une sorte de tendresse religieuse pour sa tête faible. La chair innocente était si puérile, si petite fille, qu'elle lui apparaissait avec la pureté de ces pauvres d'esprit auxquels l'Évangile accorde le royaume des cieux. Cependant, elle l'inquiétait depuis quelque temps. Elle devenait trop forte, trop saine. Elle sentait trop la vie. Mais c'était à peine un malaise. Il passait ses journées dans l'existence intérieure qu'il s'était faite, ayant tout quitté pour se donner entier. Il fermait la porte de ses sens, cherchait à s'affranchir des nécessités du corps, n'était plus qu'une âme ravie par la contemplation. La nature ne lui présentait que pièges, cordures. Il mettait sa gloire à lui faire violence, à la mépriser, à se dégager de sa boue humaine. Le juste doit être insensé selon le monde. Aussi se regardait-il comme un exilé sur la terre. Il n'envisageait que les biens célestes, ne pouvant comprendre qu'on mit en balance une éternité de félicité avec quelques heures d'une joie périssable. Sa raison le trompait, ses désirs mentaient. Et s'il avançait dans la vertu, c'était surtout par son humilité et son obéissance. Il voulait être le dernier de tous, soumis à tous, pour que la rosée divine tombât sur son cœur comme sur un sable aride. il se disait couvert d'opprobre et de confusion, indigne à jamais d'être sauvé du péché. Être humble, c'est croire, c'est aimer. Il ne dépendait même plus de lui-même, aveugle, sourd, chair morte. Il était la chose de Dieu. Alors, de cette abjection où il s'enfonçait, un hosanna l'emportait au-dessus des heureux et des puissants dans le resplendissement d'un bonheur sans fin. Mozarto, l'abbé Mouret avait ainsi trouvé les ravissements du cloître si ardemment souhaité jadis à chacune de ses lectures de l'imitation. Rien en lui n'avait encore combattu. Il était parfait. Dès le premier agenouillement, sans lutte, sans secousse, comme foudroyé par la grâce dans l'oubli absolu de sa chair. Extase de l'approche de Dieu que connaissent quelques jeunes prêtres. Heure bienheureuse où tout se tait, où les désirs ne sont qu'un immense besoin de pureté. Il n'avait mis sa consolation chez aucune créature. Lorsqu'on croit qu'une chose est tout, on ne saurait être ébranlé, et il croyait que Dieu était tout, que son humilité, son obéissance, sa chasteté étaient tout. Il se souvenait d'avoir entendu parler de la tentation comme d'une torture abominable qui éprouve les plus saints. Lui souriait. Dieu ne l'avait jamais abandonné. Il marchait dans sa foi ainsi que dans une cuirasse qui le protégeait contre les moindres souffles mauvais. Il se rappelait qu'à 8 ans, il pleurait d'amour dans les coins. Il ne savait pas qui il aimait. Il pleurait parce qu'il aimait quelqu'un bien loin. Toujours il était resté attendri. Plus tard, il avait voulu être prêtre pour satisfaire ce besoin d'affection surhumaine qui faisait son seul tourment. Il ne voyait pas où aimer davantage. Il contentait là son être, ses prédispositions de race, ses rêves d'adolescent, ses premiers désirs d'homme. Si la tentation devait venir, il l'attendait avec sa sérénité de séminariste ignorant. On avait tué l'homme en lui. Il le sentait. Il était heureux de se savoir à part, créature châtrée, déviée, marquée de la tonsure ainsi qu'une brebis du Seigneur.